Vous écoutez, on lit pour vous.
L'aliment miracle qui fait peur, un dossier d'Isabelle Haché, paru le 18 mai 2025 dans la presse. Greenpeace a crié victoire quand un tribunal des Philippines a mis un terme à la culture de riz transgénique dans l'archipel l'an dernier. Les défenseurs du riz doré ont plutôt crié à la catastrophe, laquelle mettrait en péril la vie de nombreux enfants. Le riz qui devait sauver les enfants. En couverture du magazine Time, le biologiste suisse Ingo Potricus pose au milieu de sa création, annoncée comme l'aliment miracle du nouveau millénaire, « Ce riz pourrait sauver 1 million d'enfants par an », titre le magazine, avant de préciser en plus petits caractères, mais les opposants croient que ces aliments génétiquement modifiés sont mauvais pour nous et notre planète. Le numéro est daté du 31 juillet 2000. Un quart de siècle plus tard, le magazine américain pourrait republier la même couverture. Rien n'a changé. Le riz transgénique du professeur Ingo Potricus pourrait encore sauver la vie de très nombreux enfants dans le monde. Si ça n'arrive pas, ce n'est pas parce qu'il s'est heurté à d'insurmontables obstacles scientifiques en cours de route. C'est parce que les opposants s'y opposent toujours autant. Il faut remonter encore quelques années plus loin pour bien raconter cette histoire à deux faces. Celle d'une fière et longue résistance pour les uns, celle d'une tragique occasion manquée pour les autres. Tout a commencé au début des années 1990, quand une idée a germé dans la tête d'Ingo Potricus, professeur à l'École polytechnique fédérale de Zurich. Il venait de lire sur ce qu'on appelle la faim cachée ou carence en micronutriments, souvent observée chez les jeunes enfants qui ne consomment que du riz blanc, un aliment qui ne contient aucun des minéraux et des vitamines essentielles à leur croissance et à leur développement. Comme les calories apaisent la faim, vous ne prenez pas conscience de la carence avant qu'il ne soit trop tard, explique le professeur. Les conséquences de la faim cachée peuvent être catastrophiques. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la carence en vitamine A est la principale cause de cécité infantile dans le monde. Elle affecte entre 250 000 et 500 000 enfants chaque année. La moitié d'entre eux meurent dans les 12 mois suivant la perte de la vue. L'idée du professeur Ingo Potricus était simple, du moins sur papier. Puisque la moitié de l'humanité consomme du riz chaque jour, il suffisait de l'enrichir avec de la vitamine A. Après quelques années d'expérimentation, le biologiste est parvenu à introduire un gène de maïs au riz, qui s'est alors mis à produire du bêta-carotène, riche en vitamine A, et, accessoirement, à tourner au jaune. Le riz doré était né. Dès le milieu des années 2010, le riz doré était prêt à être commercialisé. Mais les opposants aux organismes génétiquement modifiés, OGM, Greenpeace en tête, ne l'entendaient pas ainsi. En 2016, une centaine de lauréats de prix Nobel ont signé une tribune pour dénoncer la croisade du groupe écologiste contre le riz doré. Selon les signataires, Greenpeace déformait les risques, les avantages et les impacts des aliments transgéniques. Il n'y a jamais eu un seul cas confirmé d'effets négatifs sur la santé des humains ou des animaux à la suite de leur consommation. Dans ces circonstances, faire campagne contre le riz doré était inacceptable, dénonçaient les prix Nobel. Combien de pauvres gens dans le monde doivent mourir avant que nous considérions cela comme un crime contre l'humanité? En 2021, ça y était, enfin. Cette année-là, les Philippines sont devenues le premier pays du monde à approuver la culture commerciale du riz doré, développé localement sous le nom de riz malusog, ce qui signifie « bonne santé » en Tagalog, une langue des Philippines. Quelques riziculteurs ont commencé à en cultiver en 2022. L'année suivante, ils en avaient récolté 100 tonnes. Mais Greenpeace n'avait pas dit son dernier mot. Appuyé par d'autres opposants aux OGM, la section locale de l'organisme a contesté la décision du gouvernement philippin devant les tribunaux. Selon eux, le riz doré n'avait pas fait la preuve qu'il ne posait aucun danger pour la santé et l'environnement. En avril 2024, la Cour d'appel a donné raison à l'organisme. Puisqu'il n'y avait vraisemblablement pas de consensus sur son innocuité, le riz doré ne devait pas être commercialisé aux Philippines, a tranché le juge. Le ministère de l'Agriculture a stoppé son programme. Les permis des riziculteurs ont été révoqués. Greenpeace a salué cette victoire monumentale. À Zurich, Ingo Potricus était atterré. Cette décision, disait-il, va retarder la culture du riz doré pour au moins 3 ans, sinon plus. Et nous savons ce que ça veut dire. De très nombreux enfants pauvres vont mourir. Des enfants que le riz doré aurait pu sauver. Aux Philippines, 15% des enfants d'âge préscolaire ont une carence en vitamine A, explique la docteure Nina Gloriani, ancienne doyenne du Collège de santé publique de l'Université des Philippines. Ces enfants font partie des plus pauvres d'entre les pauvres. Ils vivent souvent dans des régions éloignées de l'archipel, largement dépourvues de services de santé. Leurs parents n'ont pas les moyens d'acheter de la viande, encore moins des légumes. Tout ce qu'ils peuvent se payer, c'est du riz, rappelle la docteure Nina Gloriani. C'est pourquoi nous voulons leur procurer du riz enrichi de vitamine A. La docteure Gloriani a fait partie du comité scientifique qui a évalué le riz doré en vue de sa culture commerciale aux Philippines. Nous n'aurions pas recommandé son approbation si nous ne l'avions pas jugé sûr. Ailleurs, d'autres scientifiques d'expertises diverses ont aussi donné le feu vert au riz doré. Les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande le considèrent officiellement comme sans danger. Après analyse, Santé Canada l'a également approuvé. On pourrait donc en trouver un jour sur nos tables, à condition, bien sûr, qu'il commence par être cultivé quelque part. Vous écoutez « L'aliment miracle qui fait peur », un dossier d'Isabelle Haché, paru le 18 mai 2025 dans la presse. Le problème, c'est la pauvreté. Les médias étrangers dépeignent les opposants aux OGM des Philippines comme des personnes anti-science qui veulent que les enfants meurent. Ils ne mentionnent pas qu'il existe beaucoup d'autres sources de vitamine A et qu'il faudrait de grosses quantités de riz doré pour que sa consommation ait un réel impact sur la santé des enfants, dénonce Léa Guerrero, directrice de Greenpeace Philippines. Elle a réuni une quinzaine de personnes au quartier général de Greenpeace à Manille pour bien nous montrer qu'aux Philippines, l'opposition au riz doré est loin de se limiter à son seul organisme. Dans le local bondé, il y a bien sûr plusieurs militants écologistes, mais aussi des cultivateurs et des partisans d'une agriculture locale et biologique. « Ce n'est pas que nous sommes contre les OGM », dit Léa Guerrero. « Notre mouvement défend le droit des fermiers à la semence, tout comme le droit des Philippins à la souveraineté alimentaire et à une nourriture saine et sans danger. » Le bien-être des consommateurs est en jeu. Le bien-être des fermiers aussi, prévient Eliseo Rousol Jr. de Massipag, une association d'agriculteurs opposés au riz doré. Il craint, entre autres, que l'introduction d'une nouvelle semence contamine les plants indigènes et, ultimement, menace le gagne-pain des agriculteurs. « Cette technologie étrangère est très dangereuse pour nous », s'inquiète-t-il. Beaucoup de partisans du riz doré rejettent ces craintes en les qualifiant d'irrationnelles. Ça n'aide pas au rapprochement du dialogue. Nos inquiétudes sont instrumentalisées contre nous, regrette Mabi David, qui milite en faveur de l'agriculture bio locale au sein de l'organisme Good Food Community. On nous dit « Vous ne comprenez pas bien la science, laissez parler les experts ». Cette apparente condescendance, teintée de colonialisme, de surcroît, irrite profondément les militants écologistes comme Maria Nilad. Selon elle, les promoteurs étrangers du riz doré travaillent pour leur profit, pas dans l'intérêt des Philippins. Leurs solutions ne tiennent pas compte de nos terres et de nos problèmes locaux. Ce sont des solutions band-aid pour faire de l'argent. Maria Nilad rappelle que la révolution verte du siècle dernier avait aussi été présentée comme une solution miracle pour les pays en développement. Pourtant, cette révolution n'a pas eu que de bons côtés. Elle a fait bondir la productivité agricole, certes, mais a aussi provoqué un exode rural et fait pousser les bidonvilles. La révolution verte a marginalisé nos agriculteurs. À la fin, ce n'était pas bon pour le peuple philippin, soutient-elle. Or, avec les changements climatiques, nous aurons besoin de tous nos agriculteurs locaux. Les entreprises de biotechnologie étrangères se ficheront bien de nous. Nous ne pourrons compter que sur nous-mêmes. Ancien directeur général de l'Institut international de recherche sur le riz, un organisme établi aux Philippines, Jean Balier est en faveur de la culture du riz doré. Il déplore toutefois le manque de nuances entourant ce débat. On a tendance à perdre de vue le problème fondamental. Et le problème fondamental, dit-il, c'est la pauvreté. L'idée qu'on puisse résoudre un problème complexe avec une solution miracle comme le riz doré est un peu simpliste. En réduisant la pauvreté, on résoudra non seulement le problème de la carence en vitamine A, mais aussi un paquet d'autres problèmes. Le riz doré ne va pas rendre les gens plus riches, souligne l'agronome français qui œuvre désormais au sein du groupe consultatif pour la recherche agricole internationale. Il vaudrait mieux travailler, par exemple, à ce que les paysans obtiennent de meilleurs prix pour leur récolte. On ne peut pas multiplier les technologies spécifiques pour chaque problème, dit M. Balier, parce qu'on ne s'en sortira plus. Il faut traiter le problème de fond, et le fond, c'est la pauvreté. Médecin en santé publique, la docteure Nina Gloriani est évidemment bien d'accord. Sauf qu'on n'éliminera pas la pauvreté du jour au lendemain. Du reste, l'un n'empêche pas l'autre. Il faut plusieurs approches, dit-elle. Et pour lutter contre la carence en vitamine A chez les enfants, le riz doré peut faire partie de la solution. On y revient. Ce riz transgénique a le pouvoir de sauver des centaines de milliers de vies chaque année, assurent de nombreux scientifiques. C'est ce qui rend la croisade des opposants si difficile à avaler, d'autant plus que des aliments transgéniques sont consommés chaque jour depuis maintenant des décennies, sans que des impacts négatifs sur la santé ou l'environnement aient été démontrés. Aux yeux de Greenpeace, Les plantes transgéniques ont été créées uniquement au bénéfice de riches entreprises. Le groupe refuse d'accepter que des projets aient pu être conçus au bénéfice des pauvres. Il est contre les plantes transgéniques par principe, regrette le créateur du riz doré, Ingo Potricus. C'est de l'aveuglement idéologique, dénonce-t-il. Ou pire. Après des décennies de frustration face au blocage de son projet, le professeur Ingo Potricus en est venu à croire que Greenpeace sème la peur des OGM à dessein, en les décrivant invariablement comme des plantes Frankenstein créées par des multinationales agricoles cupides et amorales. Ils ont pris conscience que c'était une façon fantastique de générer des dons. Les militants anti-OGM n'hésitent pas, eux non plus, à prêter de sombres intentions à leurs opposants. Ils comparent le riz doré à un cheval de Troie, une opération de relations publiques justement élaborée par ces multinationales agricoles cupides et amorales pour faire passer d'autres cultures transgéniques aux Philippines. Vous écoutez L'aliment miracle qui fait peur, un dossier d'Isabelle Haché, paru le 18 mai 2025, dans la presse. Personne ne se mettra riche avec le riz doré, proteste Ingo Potricus. Ni lui, ni le groupe suisse Syngenta, qui a financé ses travaux avant de céder les brevets à des laboratoires de recherche publique. Autrement dit, les pays désireux d'en faire bénéficier leurs agriculteurs ont libre accès à la technologie. Notre produit est distribué gratuitement, souligne Ingo Potricus, créateur du riz doré. Depuis plus de 30 ans, son intention a toujours été de sauver des vies. C'est aussi celle du gouvernement philippin. Il est prêt à se rendre en Cour suprême pour faire annuler la décision de la Cour d'appel. Mais ça prend du temps, du temps, du temps. Et à 91 ans, Ingo Potricus est conscient d'en avoir de moins en moins. Il y a 10 ans, je pensais voir pousser du riz doré non seulement aux Philippines, mais dans plusieurs autres pays. Je peux mourir à tout moment avant que ça ne se réalise. Mais j'ai bon espoir que le concept me survivra. Il est trop bon pour être tué. C'est contre tout savoir scientifique. La vie avant les profits. En janvier 2000, ce slogan a résonné pendant des jours dans les rues de Montréal. Armés de porte-voix, des militants de Greenpeace guidaient les manifestations pendant que les délégués de 170 pays réunis dans la métropole québécoise élaboraient un protocole sur la prévention des risques biotechnologiques liés aux cultures transgéniques. Après des jours de lobbyisme intense de la part de Greenpeace, les délégués ont intégré le principe de précaution à ce traité, adopté le 29 janvier 2000 à Montréal, donc, mais baptisé « Protocole de Carthagène », puisque les discussions avaient été entamées l'année précédente dans cette ville de Colombie. Pour Greenpeace, l'intégration du principe de précaution représentait une grosse victoire. En effet, ce principe peut être invoqué pour refuser une nouvelle technologie lorsque les connaissances scientifiques sont jugées insuffisantes pour en évaluer les risques, même les plus hypothétiques. 25 ans plus tard, le protocole de Carthagène guide toujours l'introduction de plants génétiquement modifiés des pays signataires. C'est d'ailleurs en vertu du principe de précaution qu'un tribunal des Philippines a mis un terme à la culture du riz doré en avril 2024. Greenpeace Philippines a salué la décision du tribunal. L'innocuité des cultures génétiquement modifiées n'a jamais été prouvée et a entravé les progrès nécessaires vers une agriculture écologique, résiliente au changement climatique, qui permettra à nos agriculteurs de conserver le contrôle des semences, a fait valoir l'organisme dans un communiqué de presse. D'autres y ont vu un excès de prudence réglementaire. Après tout, les cultures génétiquement modifiées ne se qualifient plus tellement comme une technologie nouvelle. On fait pousser du maïs et du soya transgénique dans nos champs depuis plus de 2 décennies, avec certains avantages notables pour l'environnement et les fermiers. Le principe de précaution appliqué aux OGM fait l'objet de critiques, et pas seulement aux Philippines. Ses détracteurs affirment que ce principe ne tient pas compte des bénéfices des OGM ni des impacts négatifs provoqués par leur interdiction. Appliquer ce principe de façon stricte, en rejetant toute culture transgénique, risque de contribuer à dégrader l'environnement et la santé humaine, font-ils valoir. Les plantes transgéniques sont cultivées depuis 25 ans dans des environnements différents, sur des millions d'hectares de terres agricoles, par des fermiers pauvres et des fermiers riches, et il n'y a pas eu un seul cas de dommages rapporté, s'impatiente le créateur du riz doré, Ingo Potricus. Il n'y a aucune autre technologie aussi sûre dans l'histoire de l'humanité. Pourtant, c'est encore considéré comme hautement risqué et dangereux. C'est fou. C'est contre tout savoir scientifique. Qu'est-ce qu'un OGM? Un organisme génétiquement modifié, OGM, est un micro-organisme, une plante ou un animal, dont le patrimoine génétique a été modifié par génie génétique pour lui attribuer des caractéristiques qu'il ne possède pas du tout ou qu'il possède déjà, mais à un degré jugé insatisfaisant à son état naturel, ou pour lui enlever ou atténuer certaines caractéristiques jugées indésirables, selon la Commission de l'éthique en sciences et technologies du Québec. C'était « L'aliment miracle qui fait peur », un dossier d'Isabelle Haché, paru le 18 mai 2025 dans la presse.
Équipe Montréal, la Ligue Montreal Roller Derby. Une entrevue réalisée par Andrea Robert-Lezac, parue le 20 mai 2025 dans le magazine Fugue. Troisième d'une série d'entrevues avec des représentants, représentantes d'organismes sportifs, culturels ou de loisirs qui font partie d'Équipe Montréal. Cette fois-ci, il est question d'une équipe de la Ligue Montreal Roller Derby, une ligue LGBTQ+ de roller derby. Bonjour, ça va bien? Pourrais-tu te présenter? Oui, ça va, merci. Je m'appelle Falcon Punch. Je fais partie de la ligue depuis 2011 et je patine pour les New Kids on the Block, l'équipe de voyage de Montreal Roller Derby. Ce soir, tu me fais découvrir un sport. De quoi s'agit-il? Le roller derby, c'est un sport de contact joué en patins quad. Contrairement à ce que l'on croit, pour les rares personnes qui connaissent ce sport, il ne s'agit pas de coups de poing ou de croche-pied. C'est un sport très réglementé. En gros, on joue sur une piste ovale à plat. Il y a 4 bloqueuses sur la piste et une jammeuse, reconnaissable à l'étoile sur son casque. Sa job, c'est de marquer des points en dépassant les bloqueuses de l'équipe adverse. Chaque équipe a donc 4 bloqueuses et une jammeuse. On fonctionne par rotation, appelée des jams. Il y a environ 15 personnes sur le banc, donc on ne patine pas pendant une heure non-stop. Ça fonctionne un peu comme un relais. Les jams durent un maximum de 2 minutes, mais peuvent être plus courts. La jammeuse qui sort du pack en premier devient lead jammeuse et peut mettre fin au jam à tout moment en faisant le mouvement de taper ses hanches. Il y a beaucoup de stratégies, Si la Jammers lead est suivie de près, elle peut marquer rapidement quelques points et arrêter le jam avant que l'autre ne puisse marquer. Mais si elle prend une pénalité, elle perd ce privilège. Sans entrer dans le détail, disons qu'il y a énormément de règlements. Est-ce un sport exclusivement féminin ou il y a aussi des équipes masculines, mixtes ou non genrées? À ses débuts, dans les années 70-80, c'était mixte. Un temps, le sport a perdu un peu de popularité, mais au début des années 2000, une petite ligue au Texas a relancé le sport de façon essentiellement féminine. Aujourd'hui, il existe aussi des ligues masculines et mixtes. La ligue féminine accueille toute personne ne s'identifiant pas comme un homme. Les deux ligues sont très diverses. Peux-tu nous parler un peu du club? Qui l'a fondé et quand? Le club a été fondé en 2006 par Georgia W. Touche. Je n'étais pas là à ce moment-là, mais on m'a raconté qu'elle avait lancé un appel sur Kijiji pour recruter des filles intéressées. On aurait pu croire que c'était un groupe d'amis qui ont lancé ça, mais non. C'est un beau symbole d'initiative individuelle. J'ai l'impression que pas grand monde ne connaît vraiment ce sport. Quelle est l'histoire du roller derby? C'est un sport que les gens plus âgés, les 60 à 80 ans, connaissent un peu, car il passait à la télé. À l'époque, on jouait sur une piste inclinée. C'était plus ou moins le même sport et surtout c'était très théâtral, plus proche du spectacle que du sport. C'était surtout du show business. Ce n'est que plus récemment qu'il a pris la forme d'un vrai sport, structuré et codifié. Avez-vous des compétitions à venir? En mai, on a eu le Round Robin avec nos équipes locales qui se sont affrontées entre elles, l'une après l'autre. Ensuite, il y a la Georgia W. Touche, nommée en l'honneur de notre fondatrice, où nos équipes de voyage, les Skates on the Block et les Sex Poses, affrontent des équipes d'ailleurs. On va affronter de gros calibres, des équipes d'expérience. Si quelqu'un veut se joindre au club, comment faire? Il suffit de nous écrire via nos pages Facebook ou Instagram ou par courriel à info@montrealrollerderby.com. On organise généralement notre camp d'entraînement à l'automne. Quand commence votre saison? La saison, pour nous, commence en janvier, après la pause des fêtes, et se termine avec les tournois de novembre. Merci beaucoup et bon match. Merci à toi. C'était Équipe Montréal, la Ligue Montreal Roller Derby. Une entrevue réalisée par Andrea Robert-Lezac, parue le 20 mai 2025 dans le magazine Fugue.